Dans les figuiers, il faut toujours vérifier la solidité du bois, mais on n'en a jamais fini de rôder. À l'abri de leur pavillon de feuilles, Côme voyait le soleil transparaître au travers des nervures, regardait les fruits verts se gonfler peu à peu, flairer la sève qui filtre à l'intérieur des pédoncules. Le figuier vous assimile, vous imprègne de sa gomme, du grondement de ses bourdons. Côme, après un moment, avait l'impression de devenir figue lui-même. Côme n'est autre que le baron perché, personnage éponyme du livre d'Italo Calvino, et qui décida à l'âge de 12 ans de vivre dans les arbres et qui s'y tint. Mais qu'on les habite ou non, les arbres peuplent nos vies et nos imaginaires. Leurs fruits et leur ombre nous sont précieux. Leurs cimes nous attirent et nous sommes intrigués par leur altérité radicale, leur mystère quand ce n'est pas les légendes dont ils sont auréolés. Le figuier ne fait pas exception. Cet arbre de taille moyenne, avec ses formes parfois biscornues, son écorce grise, lisse, ses figues et ses larges feuilles pourvues de cinq lobes, est considéré aujourd'hui comme un des premiers arbres fruitiers, avec l'olivier et le dattier, à avoir été cultivé. Pourtant, de nos jours, le figuier n'est pas vraiment un arbre de verger. Mais on a retrouvé en Palestine des traces de figues nées de boutures datant de 9200 ans avant Jésus-Christ, soit à peu près à la même époque qu'est apparue la culture du riz en Asie et avant que ne soit cultivé le blé. Cette relation de longue date avec les êtres humains explique en partie pourquoi le figuier est si représenté dans l'histoire et chargé d'une telle valeur symbolique. La forme de ses figues et son latex, ce suc blanc et épais, n'y est sans doute pas pour rien non plus. La mythologie grecque l'associe à Dionysos, le dieu de la fête, de l'ivresse et de tous les excès. On utilisait le bois du figuier pour sculpter des statues à son effigie. Et il semble que lors de certaines cérémonies, des profanes étaient fouettés avec ses branches. En Égypte, c'est dans un panier de figues qu'étaient dissimulés les serpents par lesquels Cléopâtre se donna la mort pour ne pas servir de trophée de guerre à Octave. Quant aux Romains, ils lui accordaient une place toute particulière puisque ce serait un figuier qui, près de la grotte de Lupercale, aurait arrêté le panier contenant Rémus et Romulus alors qu'ils dérivaient sur le Tibre. Mais ce n'est pas tout. Dans la vie de Caton l'Ancien, Plutarque raconte comment des figues ont déclenché la troisième guerre punique. Marcus Potius, alias Caton l'Ancien, voulait à tout prix détruire Carthage. Tout juste rentré, et alors qu'il y avait été envoyé pour une mission diplomatique, il convainquit le Sénat romain de déclencher les hostilités en usant de belles et grosses figues qu'il aurait présentées au sénateur admiratif avant de lancer l'air de rien.
La terre qui les porte n'est qu'à 3 journées de navigation loin de Rome.
Carthage est tout près, et pas si inoffensive. La conclusion s'imposait. Il faut détruire Carthage. Mais il n'y a pas qu'à Rome que le figuier joue son rôle. Dans la Genèse, on raconte qu'après avoir commis le péché originel, Adam et Ève découvrirent leur nudité et, ayant cousu des feuilles de figuier, s'en firent des pagnes. De nombreux débats ont d'ailleurs encore cours pour définir si le fruit défendu est une figue, comme l'affirme la tradition juive, ou bien une pomme, selon la version chrétienne. Plus loin de la Méditerranée, c'est sous un figuier que Bouddha aurait atteint l'éveil. Cet arbre, appelé l'arbre de la Bodhi, est aujourd'hui l'un des 4 lieux saints du bouddhisme. L'histoire bruisse de figues et de figuiers, et je ne parle même pas de ses usages en médecine qui utilisent toutes les parties de l'arbre. Celui que nous avons à Toulouse et que vous pouvez observer ici en face, sur l'ancien pilier du pont attenant à l'Hôtel Dieu, pousse aussi dans les gouttières, sur les murs des monuments et jusque dans les anfractuosités des trottoirs. Il porte le nom de Ficus carica, figuier commun ou comestible. Le terme figuier regroupe en fait environ 700 espèces, dont les banyans, ces grands arbres aux immenses racines-branches sacrées en Asie. Car le figuier est d'origine tropicale. C'est une espèce ligneuse, c'est-à-dire qui, contrairement aux herbes, a une certaine rigidité. Son développement rapide et le fait qu'il s'accommode de sols rocailleux en font l'arbre sauvage le plus présent à Toulouse. Sauvage, car contrairement à beaucoup des arbres visibles en ville, il pousse là où il se plaît, sans avoir été planté, et au risque de se voir régulièrement ratiboisé pour pousse indésirable. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de repousser plus tard ou ailleurs, et de donner de savoureuses figues. Enfin, ces petites bourses qu'on voit pousser à l'aisselle des feuilles ne se mangent pas toutes. Mais commençons par le commencement. Avez-vous déjà vu une fleur de figuier ? Et vous ne trouvez pas ça louche de voir pousser un fruit sans qu'il y ait eu de fleur ? Eh bien, c'est que techniquement, la figue n'est pas un fruit. C'est un faux fruit, comme la fraise ou la pomme. La figue est ce qu'on appelle un cicône, une sorte de sac à l'intérieur duquel se trouvent des centaines de fleurs qui produisent les véritables fruits du figuier, à savoir les petits grains qu'on se met souvent plein les dents. Manger une figue, c'est donc manger des centaines de fruits. D'accord. Mais si les fleurs sont enfermées dans un sac, comment sont-elles pollinisées ? Parce que pour qu'il y ait un fruit puis une graine, il faut bien une pollinisation, non ? Accrochez-vous, car la reproduction du figuier est l'une des plus sophistiquées qui soit. Figurez-vous que l'arbre vit en symbiose avec une minuscule guêpe d'environ 2 mm. J'ai nommé le blastophage. On parle de symbiose ou d'association mutualiste parce que l'arbre a autant besoin de l'insecte que l'insecte de l'arbre pour assurer son cycle de vie. Sachez d'abord qu'une figue comprend des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées en deux zones et qu'il existe en plus des figuiers mâles et des figuiers femelles. Les mâles, aussi appelés caprifiguiers ou figuiers de bouc, portent des figues non comestibles, dont seules les fleurs mâles, produisant le pollen, servent directement à la reproduction de la plante. Les fleurs femelles accueillent simplement la ponte des blastophages. C'est là que ces derniers naissent, grandissent et s'accouplent entre eux, enfermés à l'intérieur de la figue. Une fois accouplés, l'insecte mâle va s'acharner à découper une petite porte de sortie. Mais épuisé, il mourra juste avant de voir le monde. La femelle, elle, pourra profiter des efforts du mâle pour sortir de la figue, traversant la zone des fleurs mâles et se chargeant ainsi malgré elle de pollen. Une fois dehors, elle ne vivra que quelques jours et devra trouver une autre figue où pondre, et ce ne sera pas si facile. Eh oui, parce que là où le figuier est malin, c'est que s'il permet au blastophage de visiter tout type de figue, qu'elle soit issue de figuier mâle ou femelle, il ne lui permet de pondre que dans les fleurs des caprifiguiers. Avant de trouver la bonne fleur, notre pollinisateur visitera donc très certainement des figues de figuiers femelles, dotées, elles, de fleurs pourvues d'ovules. Et vous imaginez bien ce qui se passe. Le blastophage effleurera ces fleurs femelles, déposant par inadvertance le pollen dont elle s'est préalablement chargée. L'insecte assure ainsi, malgré lui, la reproduction de l'arbre. Vous suivez ? En gros, le figuier utilise le blastophage qui ne s'en porte pas plus mal. C'est pourquoi il est important d'avoir à proximité un caprifiguier lorsque l'on cultive des figuiers, si l'on veut s'assurer l'obtention de faux fruits juteux et riches en vitamines, aujourd'hui si courus des sportifs pour leur valeur nutritive. C'est vrai que la figue, pour faux fruit qu'elle soit, nourrit abondamment les villes et surtout les campagnes. Longtemps, le figuier a été associé à la vie rurale. L'arbre planté dans les jardins à la naissance d'un enfant fournissait des fruits pour la famille. Vendre des figues aux foires agricoles permettait d'arrondir les fins de mois. C'est encore un peu le cas, mais à moindre échelle. Et comme on avait beaucoup de fruits et qu'ils se gardent mal, on les faisait sécher. Cela dit, la figue était aussi au menu des rois, notamment à ceux de Louis XIV, qui en raffolait au point que son jardinier, la Quintigny, créa une figueraie au château de Versailles, comptant des centaines d'arbres, et s'arrangea pour qu'elle donne des figues presque la moitié de l'année. Mais le commerce de la figue ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier. L'expression « mi-figue, mi-raisin » en témoigne. On attribue son origine à une arnaque des commerçants corinthiens qui découpaient de petits bouts de figues sèches, peu chères au kilo, et qui les mélangeaient aux raisins de Corinthe commandés par leurs clients vénitiens. En France, les figuiers sont plantés dans les vignes ou les vergers depuis le XIIe siècle, surtout en Languedoc. Dans la vallée de l'Hérault, on les utilisait aussi comme coupe-vent autour des espaces horticoles. Son commerce est très répandu au Moyen-Âge, notamment à Revel et dans le Lauragais. Mais des archéologues ont pu montrer par l'étude des traces laissées dans les latrines de l'époque, à savoir des fossiles de pépins, que les figues étaient très consommées en ville et notamment à Montauban, où elles n'étaient visiblement déjà pas toutes issues de variétés locales. Cela laisse penser que pour satisfaire les goûts, sèches ou fraîches, violettes, vertes et j'en passe, et les types de consommateurs, plus ou moins fortunés, victimes de la mode, on avait alors accès à des figues de provenance diverse. Mais bon, le transport de la figue fraîche étant difficile, celle-ci était souvent locale. Au XIXe siècle, c'est le marché du Mas d'Asile qui se distingue dans la vente de figues avant que les cultures fruitières du plantorel ne disparaissent au profit notamment des pâturages. Les figuiers poussent aujourd'hui plus au hasard, sans intervention humaine, et font rarement l'objet de soins particuliers. C'est aussi le cas en ville, à Toulouse, où bien que les arbres soient dans toutes les bouches et qu'ils soient de tous les plans d'aménagement, solution miracle à l'îlot de chaleur urbain et au bien-être dans la ville, on fait peu de cas des figuiers et autres arbres sauvages qu'on coupe, voire arrache. Pourtant, depuis les années 70-80, l'arbre est considéré à travers le monde comme un bien commun. L'ONU a même reconnu en 2000 qu'il nous rend ce qu'on appelle des services écosystémiques, à savoir l'approvisionnement en nourriture, en combustible, la régulation de l'air, des inondations, des pathogènes, les services socioculturels, esthétiques, spirituels, récréatifs, éducatifs, les soutiens indirects pour la formation des sols, le maintien des cycles carbone, etc. Tout bien a une valeur, et au royaume de l'évaluation, les barèmes font loi. Ainsi existe-t-il un barème de la valeur d'un arbre, aussi appelé « méthode des grandes villes de France » et qui a pour objectif de protéger les arbres en prévenant ou en réprimant, parce que cette valeur se chiffre en monnaie sonnante et trébuchante, et détermine les PPSE, paiement pour préservation des services écosystémiques. Cette vision pour le moins anthropocentrée et marchande suscite bien des débats autant dans les cercles scientifiques que politiques. D'autant que cette valeur établit une hiérarchie, puisqu'elle s'évalue en fonction de la variété de l'arbre, de son esthétique, de son état sanitaire, de sa localisation et de sa dimension. Alors quid d'un figuier poussé anarchiquement sur un trottoir ? En réalité, contrairement au patrimoine bâti, il n'existe pas de protection réelle pour le patrimoine arboré, un label tout au plus, celui d'arbre remarquable. À Toulouse, les mûriers de Grande Plaine, le magnolia de Purpan, les platanes du canal de Brienne, le micoucoulier du cimetière de Terre-Cabade et la glycine des serres municipales portent ce label. Mais il n'a qu'une valeur symbolique, non contraignante. Pour autant, il a au moins l'avantage de s'attacher à tous les arbres, des essences nobles aux plus modestes, des arbres plantés aux spontanés, sauvages des trottoirs. Mais encore faut-il qu'on leur ait laissé l'opportunité de se développer.